La campagne majeure du Carrefour international Brian Mulroney vise à créer un pôle d'excellence francophone en études internationales. Pour y arriver, l'Université Laval a demandé à ses diplômés et ses complices, aux leaders qui ont marqué le Québec, d'appuyer ce projet porteur. Cette série de balados met en lumière nos ambassadrices et ambassadeurs de campagne, des personnes dévouées qui se mobilisent depuis des mois pour bâtir ce lieu d'échange et de rencontre entre la communauté étudiante et les experts dans le domaine. Chacun apporte son point de vue et sa vision quant aux retombées concrètes du Carrefour international sur la formation de la relève et l'avancement des connaissances sur les enjeux internationaux.
Pour moi, le Carrefour international Brian Mulroney, ce sera un lieu d'échange, de débat, de partage sur les grands enjeux internationaux du moment à travers une formation qui viendra des milieux académiques, mais aussi le développement du savoir-faire et du savoir-être de nos étudiants qui devront composer avec ces enjeux internationaux et tout ça vers une dynamique multiculturelle qui est celle du monde dans lequel on vit présentement.
J'ai le plaisir d'échanger aujourd'hui avec Pierre Guimond, diplomate en résidence de l'École supérieure d'études internationales de l'Université Laval. Monsieur Guimond était auparavant ministre conseiller et chef du service de politique étrangère de l'ambassade du Canada à Paris. Il a commencé sa carrière au ministère des Affaires intergouvernementales du Québec avant de joindre le service extérieur canadien. Il a servi à Prague, Bonn et Vienne, en plus d'avoir été ambassadeur du Canada à Budapest de 2007 à 2010. Pierre Guimond, bonjour.
Bonjour.
Monsieur Guimond, vous avez dédié une grande partie de votre carrière aux affaires étrangères du Canada et à la diplomatie internationale. Maintenant, vous partagez votre expérience aux étudiants de l'École supérieure d'études internationales. Qu'est-ce qui vous a motivé à faire ce choix?
Ben, pour utiliser un cliché et pour faire bref, pour redonner au suivant, comme dit l'expression populaire, et pour paraphraser, bien qu'à un autre niveau, les premiers ministres Mulroney et Chrétien, je suis un petit gars du quartier Saint-Roch à Québec qui a étudié à l'Université Laval dans la période très dynamique et excitée de la fin des années 70. Donc, je m'intéressais aux affaires internationales d'un point de vue académique et c'est là-dedans que j'ai fait mes études en sciences politiques. Et ensuite, comme vous le dites, j'ai fait carrière au gouvernement du Québec et au gouvernement du Canada dans les relations internationales. D'abord, les relations fédérales-provinciales, ensuite les relations internationales. Et après 31 ans de passer à l'extérieur du Québec ou de la ville de Québec au service des deux gouvernements, mon premier souhait était de revenir vivre dans la région que j'avais quittée d'abord pour Toronto, ensuite Ottawa, ensuite les capitales européennes. Étant donné sa qualité de vie, évidemment, et la présence des membres de ma famille. C'est à ce moment-là que je suis revenu à Québec et j'ai rencontré le directeur de ce qui s'appelait à l'époque l'Institut des hautes études internationales, l'Université Laval, le professeur Louis Bélanger. Et j'ai offert mes services, entre guillemets, en disant qu'est-ce que je peux bien faire pour être utile à la retraite qui commençait à ce moment-là. Et on a longuement discuté de ça et ce qu'on s'est aperçu, c'était que dans le domaine des sciences sociales, dans les études des relations internationales, il n'y avait pas beaucoup de discussions sur les compétences nécessaires à ceux et celles qui veulent travailler dans le domaine international. On a évidemment une base de recherche scientifique et d'enseignement pédagogique, mais à mon point de vue, il manquait le petit bout du dessus qui est le développement des compétences. Alors, pour les étudiants, de savoir quelles sont les compétences que ça prend pour devenir, par exemple, diplomate au gouvernement du Québec ou au gouvernement du Canada ou dans les organes internationaux et comment on fait pour les développer si on les a pas et les perfectionner si on les a. Donc, c'est comme ça que j'ai été invité à joindre l'équipe des diplomates en résidence de l'Université Laval.
Et justement, en quoi consiste votre rôle à titre de diplomate en résidence à l'École supérieure d'études internationales?
Oui, bien, merci pour la question. Effectivement, ça m'est posé souvent. dans les universités anglophones, on appelle ça fellow ou senior fellow. Donc, ce sont un peu à la fois des conseillers qui viennent du monde de la pratique des relations internationales, qui sont là pour, par exemple, aider les professeurs. Je me souviens très bien que lorsque j'étais étudiant moi-même, j'avais un emploi à temps partiel d'agent de protocole au gouvernement du Québec et mes professeurs me demandaient toujours « Mais comment ça se passe dans la vraie vie? » parce qu'eux, ils n'avaient pas vécu cette vie-là. Et moi, je faisais 5 heures par semaine, donc c'était pas une grande trouvaille. Mais là, après 31 ans, j'avoue que j'ai pas mal de choses à partager. Donc, c'est ce qu'on fait. Il y a un réseau dans toutes les grandes universités universités ont des diplomates en résidence. Au Québec, on est vraiment parmi on a une très bonne équipe. Donc, on est 5 personnes, dont un militaire aussi à la retraite qui est expert en résidence. Donc, finalement, il y a ça. Il y a le rôle de conseiller les professeurs qui nous invitent à l'occasion dans mm-hmm. leur classe pour faire des présentations sur le comment des choses, qui vient compléter le quoi qu'ils ont enseigné. Mm-hmm. Aussi, avec mes collègues, on est relativement souvent appelés à faire des commentaires dans les médias sur les enjeux internationaux du moment. Donc, on se prête, selon nos expertises, à faire des entrevues. Dans mon cas, lorsque je suis arrivé, c'était très intéressant parce qu'on avait, à l'époque, le sommet du G7 qui avait lieu à la Malbaie. Et avec des collègues à Ottawa, on s'est fait inviter, j'ai réussi à avoir une invitation de la part du ministère des Affaires mondiales à ce que l'École supérieure d'études internationales organise à l'intérieur du processus du G7 une conférence internationale des membres du G7, mais venant de think tanks ou d'écoles de formation diplomatique. Donc, c'est un peu un genre d'activité. On en fait souvent des activités. On fait venir à l'École supérieure, à l'université, des experts internationaux, des personnalités, par exemple, des ambassadeurs du Canada à l'étranger ou de l'étranger au Canada. Et c'est finalement un peu la fonction principale, avec également l'école d'hiver sur la pratique des relations internationales que j'ai mentionnée. Certains d'entre nous donnent des cours à l'université, ont des charges de cours, et c'est un peu le travail qu'on fait comme diplomate en résidence.
L'École supérieure d'études internationales est reconnue pour son enseignement et sa recherche multidisciplinaire. Pourquoi cet aspect est primordial dans les relations internationales? Et donnez-nous quelques exemples concrets.
Bien, en fait, je retourne avec un autre cliché qui est celui que le monde est compliqué mm-hmm. Et le monde change rapidement. Et donc, les problèmes étant plus complexes, ça appelle des solutions plus complexes. Mm-hmm. Et là, et je vous parle là, d'un aspect assez géostratégique, là, un peu global, mais pour ces enjeux-là, il n'y a rien qui est autonome comme problème. Les changements climatiques provoquent des déplacements de population qui peuvent provoquer des guerres parce que les gens empiètent sur le territoire mm-hmm. du voisin, ou une résistance de la part des pays recevant ces migrants environnementaux, si on peut dire. Mm-hmm. Ça amène une pression politique même à l'intérieur des États parce qu'il y a des populations qui craignent les déplacements de population. Mm-hmm. Et ça peut amener l'instabilité économique dans les pays d'où viennent les immigrants et dans les pays qui les reçoivent. Donc, on voit qu'il y a un continuum presque sans distinction mm-hmm. l'un de l'autre sur la façon, sur les problèmes. Et donc, on devra aborder les solutions dans le même ordre. C'est-à-dire mm-hmm. qu'il faudra avoir des expertises, idéalement aussi des expériences, mm-hmm. dans la façon de traiter comment on réagit, comment on comprend les phénomènes de crise climatique, jusqu'à comment on comprend les populations qui craignent des déplacements de population ou les effets sur le commerce international. On l'a vu évidemment de façon très criante lors de la pandémie, avec mm-hmm. les chaînes de valeur globales qui ont été bouleversées. Donc, c'est pour ça que ça prend une approche où les étudiants qui se préparent à vivre et à opérer dans ce monde-là soient en mesure de comprendre non seulement leur petit bout qui peut être légal si on vient du droit ou mm-hmm. politique, sociologique, anthropologique, dans le domaine des affaires, des règles commerciales. Et ça prend presque tout ça en même temps pour considérer ces grands enjeux globaux-là. Dans un aspect beaucoup plus pratique, évidemment, lorsqu'on est en poste, par exemple, je pense à des gens qui travaillent dans les délégations du Québec à l'étranger ou dans les ambassades du Canada, ben, à tous les jours, on traite de sujets différents. Ça peut être le matin, on peut faire une visite d'une usine pour encourager les gens à venir investir au Canada mm-hmm. ou au Québec. Et dans l'après-midi, on peut traiter d'enjeux de migration, ce qui était mon expérience lorsque j'étais ambassadeur en Hongrie. On avait exactement réglé ce duo de grandes questions-là, mm-hmm. dans un contexte aussi de démarches qu'on fait pour promouvoir les intérêts canadiens dans un pays, donc relations diplomatiques plus classiques, avec quelques cas consulaires qui nous arrivent de Canadiens qui sont en détresse mm-hmm. et qu'il faut aller soit visiter en prison ou aider dans des questions médicales. Donc, et ça, c'est très concret, là, c'est au jour le jour. Et le lendemain, c'est d'autres enjeux. Donc, si on n'a pas une perspective Évidemment, généraliste, bien qu'il y a toujours un débat entre généraliste et spécialiste en affaires internationales, ça prend des deux. Ça prend des gens qui sont aussi experts en énergie nucléaire et qui font que ça et auxquels font appel les gens qui sont les plus généralistes. Évidemment, plus on monte dans la structure en termes de responsabilité, plus on devient généraliste, mais plus on a besoin des spécialistes. Donc, c'est un peu ça que je pense qui est primordial d'avoir une attitude multidisciplinaire dès la période des études, pour qu'ensuite, on puisse, dans la pratique, traiter ces questions-là d'une façon cohérente avec différents entrants qui sont différents selon les enjeux.
Justement, on parlait un petit peu de la multidisciplinarité et des différentes facettes aux enjeux auxquels nous faisons face, justement. Quels sont les défis émergents pour les spécialistes de l'international, M. Guimond, et comment pouvons-nous adapter la formation pour répondre à ces nouveaux enjeux?
Bien, la diffusion de l'information, et qui est évidemment une très bonne chose, mais certains ont vu l'avantage personnel de la mauvaise utilisation de ces transmissions d'informations, donc basées sur des avancées technologiques qui sont exponentielles, d'où le très grand danger, à mon point de vue, de tout ce qui est la gestion de l'information. Et là, je fais le pont tout de suite avec la formation universitaire, évidemment, qui doit être en mesure de répondre à ça, c'est-à-dire par la recherche, par le fait de trouver des données probantes comme élément de solution à la réponse aux crises, mais ça permet de répondre à toute cette désinformation qui est maintenant un outil même de guerre dans le cas qu'on peut voir en Ukraine. Donc ça, c'est très important à mon point de vue, c'est cette façon de répondre, la contribution que peuvent faire les milieux académiques universitaires à ce désordre dans le domaine de la désinformation ou des informations, et évidemment les grands dangers qui peuvent venir avec tout ce qui est l'intelligence artificielle, entre autres générative, où on peut voir immédiatement les très grands bénéfices, mais qui peut aussi servir contre les populations qui peuvent être exploitées par des personnes qui vont utiliser ces moyens-là de façon négative.
En terminant, M. Guimond, comment le Carrefour international Brian Mulroney peut-il contribuer à améliorer la formation de la relève?
Bien, en fait, je pense que les travaux de l'École supérieure d'études internationales, qui sont au centre de ce que sera le Carrefour international Brian Mulroney, ajoute à tout ce qui se fait déjà en termes de recherche académique et de formation académique, et le maudit carrefour que des gens de partout viennent échanger avec nos étudiants. D'ailleurs, même la ville de Québec est un lieu de carrefour quand on sait que les premiers peuples, donc Atikamek, Innu, Huron-Wendat, venaient à Québec se retrouver. Ben, le Carrefour international Brian Mulroney permettra de faire ce genre de retrouvailles, donc des étudiants. L'Université Laval, je crois, compte pas loin de 10 000 étudiants qui viennent de l'étranger. Beaucoup d'étudiants en relations internationales viennent à l'École supérieure d'études internationales étant donné l'intérêt qu'ils ont à avoir la formation qu'on y offre. Donc ça, c'est très important. Mais on a aussi pensé ajouter ce qu'on appelle donc le savoir-être, c'est-à-dire la capacité d'agir dans... d'être efficace dans un monde interculturel. Par définition, les travailleurs de l'international vont vivre dans des pays étrangers ou sinon interagir ici à Québec, dans la région, ou au Québec ou au Canada, avec des gens venus d'ailleurs. C'est la tendance mondiale. Donc, à l'École supérieure d'études internationales, on offre des ateliers sur le développement des compétences interculturelles et où on a des témoins de la région de Québec qui viennent voir les étudiants et qui leur parlent non pas de la façon avec laquelle ils s'acclimatent ou s'intègrent, mais plutôt des différences qui les animent et qu'ils veulent durer, enfin, qu'ils veulent garder dans le temps avec leur famille, leur tradition familiale, religieuse et sociale et autres. Et pour ainsi exposer ici même à Québec, nos étudiants à des environnements qui vont être, par définition, étrangers lorsqu'ils seront à l'extérieur. Mm-hmm. Et donc, ça, je pense que le Carrefour international Brian Mulroney et les formations qu'on y donne devront, au cours des années à venir, permettre ce genre d'interaction parce qu'on fera venir à Québec des sommités dans le domaine international pour des grandes conférences, des grands événements d'information pour le milieu académique, mais aussi pour la population en général. L'université doit être ouverte à la société québécoise, mm-hmm. et le Carrefour permettra ça. Mais aussi, dans le très concret, comment est-ce qu'on vit en société, dans une société multiculturelle? Et non seulement on vit là, mais il faut être efficace dans son travail. Donc, mm-hmm. de performer dans les affaires, dans les relations diplomatiques, dans le développement international, et tout ça avec les compétences que j'ai mentionnées, incluant celles de la compétence en relations interculturelles.
Pierre Guimond, le partage de votre bagage professionnel avec les étudiantes et étudiants de l'école est extrêmement précieux. Bravo pour votre engagement dans la formation de la relève et merci infiniment pour cet entretien.
Au plaisir.
Nous vous rappelons que cette campagne vise à financer le nouveau bâtiment Signature, regroupant les experts en études internationales, mais également des projets de recherche et des programmes de bourses et d'études pour bonifier la formation de la relève. Que vous soyez diplômé, donateur, professeur ou membre de la communauté étudiante, votre soutien est primordial à la réalisation de ce grand projet qu'est le Carrefour international Brian Mulroney.